Matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir, avant-dernier jour dans Matière à penser d'une semaine consistant à éprouver la consistance du nous. Nous, les auditeurs, ou nous, les auditrices et les auditeurs? Telle est la question. Pour parler de genre, de jazz, d'accent circonflexe et de francophonie, de communauté de langue, mais aussi d'orgueil national, et puis d'histoire, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Bernard Sarquiguéné. Bonsoir Bernard Sarquiguéné.
Bonsoir Patrick Boucheron.
Vous êtes professeur à l'université de Paris 8. Vous avez été à deux reprises, de 89 à 93, mais aussi de 2001 à 2004, d'abord délégué général à la langue française, puis délégué général à la langue française et aux langues de France. Ça faisait une différence.
Très, très importante, oui.
Et vous présentez Merci Professeur sur TV5 Monde et vous êtes depuis 1995 membre de l'Oulipo. Ça, vraiment, ça m'impressionne.
C'est ma grande fierté.
C'est votre grande fierté. Eh bien, écoutez, une des choses dont vous pouvez être fier aussi, c'est de vos livres, bien sûr, on va en parler. Et du dernier, L'invention de Nitard, paru aux éditions de Minuit, qui est, vous le dites, une sorte de road movie carolingien. Mais l'action commence en 2012.
Oui, j'avais publié il y a un quart de siècle un livre sur les serments de Strasbourg, attirant l'attention du public sur Nitard, qui, dans sa chronique en latin, cite les serments de Strasbourg. Et donc j'avais déjà commencé à vanter cet homme qui avait eu conscience de l'importance des serments, au point tel que il avait osé abandonner le latin au profit des langues vulgaires. Et depuis, je rêvais à Nitard.
Parce que c'est celui qui a cité, disent les historiens, mais peut-être plus que cité, ces serments de Strasbourg qui sont importants. Pourquoi? Rappelez-nous.
C'est le premier texte en langue française et un des premiers textes en langue germanique. Ce sont des serments bilingues que se prêtent deux petits-fils de Charlemagne, Charles le Chauve et Louis le Germanique, qui passe alliance contre le frère aîné, Lothaire, pourtant l'empereur désigné.
Donc en 842.
842, le 14 février, c'est une date. Et donc il s'attribue des territoires, pensais-je à l'époque. Je pense maintenant qu'il s'attribue plutôt des réseaux de fidélité. L'un dans un domaine plutôt francophone, l'autre plutôt germanophone. Et quelqu'un, sans doute Nitard, a eu l'idée de les faire jurer alliance à Strasbourg, en langue régionale. Mais on n'a pas gardé le texte de l'époque. C'est Nitard lui-même qui, dans une chronique en latin où il raconte toutes ces histoires horribles, ces noirceurs, ces combats entre frères, qui cite les deux serments. C'est donc les premières lignes écrites en proto-français, c'est-à-dire en français.
Et donc c'est véritablement un monument de la langue française rapporté à la nation, parce que pendant très longtemps, on a voulu croire que c'était déjà du français et que c'était déjà la France. En fait, c'est plus compliqué que ça.
C'est plus compliqué. Et j'avoue qu'il y a un quart de siècle, j'ai donné un petit peu là-dedans en rappelant que les deux futurs pays s'étaient créés par un traité bilingue et que l'Europe était d'abord un bouquet de langues. Il y a 25 ans, nous luttions beaucoup contre l'hégémonie de l'anglais et nous vantions le plurilinguisme. Je faisais valoir aussi que ce n'est pas rien que le français, première de toutes les langues romanes à passer à l'écrit, l'ait fait dans un traité politique. C'est quand même une institution, le français, dès le début. Je ne regrette pas d'avoir écrit ça, je le pense toujours.
Et maintenant, vous pensez plutôt que c'est la création d'un écrivain, en somme.
Oui, ce qui s'est passé en 2012, c'est que, étant allé à plusieurs reprises à Saint-Riquier pour voir ce qu'il restait, pratiquement rien, j'ai téléphoné à un ami qui venait d'être nommé directeur régional des affaires culturelles. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux savoir à quel endroit on avait dû enterrer Nitard? Et 15 jours après, il m'appelle en me disant, mais je le sais, puisque on l'a retrouvé. Et d'ailleurs, depuis, on l'a perdu. Car ce qui est étonnant, c'est que on a retrouvé les restes de Dittard et on les a égarés pendant 15 ans. Mais c'est une histoire quasiment pour un nouloupien. Et ce qui m'est arrivé, c'est que on m'a conduit, donc je me suis empressé de retourner à Saint-Riquier. Et là, on m'a conduit depuis Saint-Riquier à un laboratoire départemental d'archéologie, où m'attendait dans une pièce très anonyme, une table entourée de marmoire métallique sur laquelle reposait un squelette presque complet, et notamment un crâne que l'on m'a quasiment mis dans les mains, et c'était le crâne de Dittard.
Singulière rencontre pour un chercheur familier d'écrits sans visage et sans nom, dont les siècles ont affaibli la vigueur et l'écho avec le reste palpable de ce qui fut une ardeur, la trace pathétique d'un élan brisé. Écrivez-vous, Bernard Cerchiglini. Septaine Dittard, vous l'aviez devant vous.
Je l'avais devant moi. Et j'avais aussi ce crâne fracassé, car Dittard, que l'on a traité de qualifier d'historien, c'est très noble, Patrick Boucheron, d'être historien, et d'abord un combattant. Il est mort au combat.
Il a passé sa vie à cheval. Alors on peut rappeler qui il était, peut-être?
Alors, il est le fils d'Angilbert, abbé laïque de Saint-Riquier, c'est lui qui a fait Saint-Riquier, et de Berthe, qui est fille de Charlemagne. Ils ne se sont pas mariés, les filles de Charlemagne ne se sont pas mariées. Charlemagne était un père très ombrageux, comme vous le savez. Et donc, il est petit-fils de Charlemagne, et donc proche cousin de Charles Chauve, de Louis le Germanique et de Lothaire. Et il travaille avec le troisième, le puiné, celui qui est le plus jeune, qui est Charles le Chauve.
Oui.
Il travaille avec lui, il est proche de lui. Charles le Chauve a très peu de collaborateurs. Il a peu d'espérance de mettre à bas l'Empire. Et donc Charles le Chauve lui dit, un jour qu'il rentre en chevauchant à Chaland-sur-Marne à l'époque, il lui dit, il faut que tu racontes tout ça, parce qu'un jour, il faudra qu'on soit justifié d'avoir mis en cause la primauté de Lothaire. Et le pauvre Dittard, au bivouac, le matin, très tôt ou très tard, écrit. C'est donc un guerrier d'abord, c'est un diplomate, il a préparé l'affaire de Strasbourg, c'est aussi quelqu'un de cultivé, car depuis le livre que j'ai écrit il y a 25 ans, l'historiographie carolingienne a insisté...
Elle a beaucoup changé.
Énormément.
C'est formidable d'ailleurs.
C'est formidable.
Elle s'est réenchantée d'une certaine manière.
Oui, je dirais que nous assistons à une nouvelle renaissance carolingienne. Les études sont brillantes et elles ont montré l'importance de la culture laïque. Dittard écrit un très bon latin, et il n'est pas le seul d'ailleurs à l'époque, tout en étant la matinée à cheval et à midi dans des négociations sans fin avec le frère.
C'est pour ça, Bernard Cerchiglini, que je disais road movie carolingien d'ailleurs, vous le dites vous-même, et en même temps vous le traitez comme un écrivain et vous dites au fond il est l'écrivain d'une littérature né d'un chagrin, qui est un chagrin politique, en somme, parce que au moment où il écrit à Saint-Riquier, ben, le rêve politique d'une concorde fraternelle est en train de s'évanouir.
Exactement. Sa chronique est faite de 4 livres. Les 2 premiers répondent exactement à la commande de Charles Chauve. Pas les 2 derniers. Mmh. Pour le 3e, il dit dans sa préface du 3e livre, j'avais envie d'arrêter, mais le tourment est tel que je continue à raconter.
Il est tourmenté, il écrit, donc il est écrivain.
Voilà, il est écrivain. Et c'est dans le 3e qu'il consacre de nombreuses pages au serment de Strasbourg. Il raconte la réunion de Strasbourg en détail et il cite les serments de Strasbourg. Et j'ai essayé de montrer dans le livre que cette troisième partie est un grand rêve de fraternité. À la fois, il cite les serments de Strasbourg, mais il est le premier à raconter aussi quelque chose qui s'est passé après Strasbourg et qui est le premier témoignage d'un tournoi.
Oui.
Presque 2 siècles avant. Et les historiens du tournoi connaissent Dittard. Mais pour cela seulement, il raconte un tournoi que se donnent les deux frères. Il raconte aussi une sorte de félicité. On a une pastorale. Les deux frères vivent ensemble à Worms quelque temps. Et je crois avoir montré que il est en disgrâce. Il a quitté Charles le Chauve qui renouvelle son équipe. C'est un vieux Dittard. Il a 40 ans, hein. Charles en a 19. Il l'a expédié à Saint-Riquier, l'abbaye familiale, mais dont il n'est pas vraiment le patron, car à Saint-Riquier, il y a un abbé religieux qui est le vrai chef. Lui a été nommé par Lothaire. Imaginez comment ils se conduisent. Les deux abbés, ils sont à couteau tiré. Et il écrit les livres 3 et 4, qui sont des livres de chagrin. Sa carrière a pris un mauvais tour. Il a perdu aussi des terres que lui avait données Louis le Pieux, et que Lothaire a volées sans que Charles le Chauve les réclame. Oui. Il a donc plus rien. Sinon, l'abbaye familiale, le souvenir de la famille, et à la fin du livre 4, il cite son père, sa mère,
et son frère. Et il parle de son père ainsi, en Gilbert, de la fille de ce grand roi appelé Berthe. Il eut Artnild, mon frère, et moi Nithard.
Et Artnild, c'est l'image miroir de Nithard.
D'ailleurs, vous qui êtes un membre de l'Oulipo, vous avez bien vu que c'était un nom au miroir.
C'est un nom au miroir. Et on ne sait rien de ce frère. Il le cite.
Existe-t-il d'ailleurs?
Alors.
Probablement.
Certains historiens pensent qu'il l'a inventé. Je crois pas qu'à Saint-Riquier, qui est l'abbaye familiale, où est enterré en Gilbert, où peut-être il a passé son enfance, je pense pas qu'il ait pu l'inventer. Il a dû exister. Est-il mort? Est-ce un jumeau? Pascal Quignard a écrit un très joli roman.
Les larmes.
Les larmes. Oui. Les larmes.
Et sur donc, le frère.
C'est le, sur le
sur
frère.
Sur le frère obscur.
Sur Artnild. Et donc, je me suis intéressé à cet homme, à son chagrin. Depuis le XVIe siècle, on l'avait lu comme un historien. On l'avait même pas lu. On avait ouvert pour les serments de Strasbourg. Et j'ai senti son chagrin, sa détresse et son goût pour l'écriture. Cet ouvrage de commande devient un ouvrage de confession, de justification pour la postérité. Ah, si seulement cette politique avait marché, si seulement nous avions été frères, comme je l'ai été avec Artnild.
Francis Marmande, dans Le Monde, parle de ce livre en disant que vous y faites un travail de sage-femme. Alors ça va nous intéresser tout à l'heure quand on parlera de la féminisation des métiers.
Sage-femme.
Vous êtes un sage-femme. Mais oui, parce que vous dites au fond que la langue française naît de cette fracture, au fond, de cette entaille dans un crâne que vous avez vu.
Oui,
c'est ça l'invention de Nithard.
Oui, je pense qu'elle vient de ce crâne. Alors certes, j'insiste maintenant beaucoup sur l'individu. Et on pourrait me reprocher, d'ailleurs mon grand ami Pierre Encrevé, avec qui j'ai eu une longue conversation il y a 15 jours à ce sujet, je tiens à citer Pierre parce que tout à l'heure je l'ai conduit au cimetière Montparnasse, et Pierre il y a 15 jours...
Un
très grand linguiste, un homme admirable, un spécialiste de Soulages, et Pierre il y a 2 semaines me faisait remarquer que tout de même... Le passage à l'écrit d'une langue implique une institution, implique une normalisation, implique un enseignement de cette langue écrite et un public.
Mais oui, mais que voulez-vous? Vous aviez envie de suivre la chevauchée de Nithard.
C'est ce que j'ai répondu
à Pierre.
C'est
votre héros.
Je lui ai dit, Pierre, tu as raison. Il faut sans doute, au concile de Tours de 812, l'Église a décidé de produire des prières en français. Bien sûr, Pierre, tu as raison. Mais moi, j'avais envie de suivre Nithard à cheval. Jusqu'à ce qu'il tombe et de cette béance, de ce crâne éclaté, sort la vérité sur la naissance du français.
On ne sait pas d'ailleurs très bien quand et comment il meurt. Pas exactement comme ses rêves chevaleresques l'avaient conduit à espérer.
Oui, alors peut-être que j'en fais un peu trop, mais je pense qu'il y a 2 hypothèses. Il y a la mort glorieuse dans les marais du Ponthieu contre les Vikings en 845. Et puis il y a une mort un peu triste. Charles le Chauve le rappelle tout de même. Eh ben, il veut bien quitter Saint-Riquier. Il part en Aquitaine et sur le chemin à Angoulême, il tombe dans un guet-apens et il est tué avec d'autres personnes. Et donc je pense que c'est là qu'il est mort. Pour une cause qui n'était plus la sienne.
Donc le livre qui nous réunit, Bernard Cerchéglini, l'invention de Nithard, qui est paru aux éditions de Minuit, son titre s'entend de plusieurs manières. Le français est l'invention de Nithard, mais effectivement c'est une invention au sens médiéval, puisque son squelette a été
retrouvé.
Exhumé. Et ce que vous écrivez, au fond, ce n'est rien d'autre qu'un tombeau.
C'est un tombeau. J'ai écrit un tombeau de Nithard pour lui rendre hommage et puis le justifier le fait que, en fait, il n'est pas mort pour rien. On a failli égarer ses restes. Mais voilà, il a créé quelque chose qui s'appelle tout de même la langue française et puis peut-être aussi la littérature française, qui n'est pas rien.
Dors en paix, Nithard, dans ta terre picarde et mon admiration. Ce sont les derniers mots, Bernard Cerchéglini. Mais justement, on n'a jamais le dernier mot parce que vous êtes linguiste et médiéviste, et au fond, autant on demande aux historiens médiévistes quand est-ce qu'a cessé le Moyen-Âge, autant on ne cesse de demander aux linguistes médiévistes quand est-ce qu'on a commencé à parler français. Donc, je repose ma question, c'est vraiment à ce moment-là? C'est vraiment pendant les serments de Strasbourg?
Je le pense. Depuis quand parle-t-on français? Depuis qu'on l'écrit. C'est-à-dire depuis que son altérité et sa valeur ont été perçues à un point tel qu'elles ont pu justifier que on les conserva dans un manuscrit. Ce n'est pas rien tout de même de déposer de la langue vulgaire sur un manuscrit médiéval, vous en savez le coût. Et d'ailleurs, le manuscrit est unique. On a deux manuscrits de Nithard, le second est tardif et n'a pas les serments de Strasbourg.
Mais au fond, Nithard met par écrit deux manières d'oraliser des proto-langues, en somme. Hein, une oralité germanique et une oralité romane.
Exactement. Et il est plus près de l'oralité germanique, c'est-à-dire qu'on voit bien que sa langue maternelle est plutôt le germain, car les philologues repèrent aisément le dialecte qui est dans les serments de Strasbourg en langue francique. C'est du francique, c'est clair. Pour l'aspect français, c'est plutôt une koiné, c'est-à-dire que c'est une langue transdialectale qui doit avoir quelque antériorité, et là Pierre Encrevé avait raison, c'est-à-dire que Nithard n'a pas inventé l'écriture du français. Il y a derrière lui au moins une génération de textes cléricaux, de petites légendes de vie de saint, et donc peut-être déjà une koiné, une écriture, une scripta, pour parler latin, de français. C'est très émouvant de voir comment, avec l'orthographe latine, on transcrit des sons nouveaux.
Mais en même temps, vous vous débattez, Bernard Cerchiglini, avec tout ce que l'historiographie de la langue et de la nation a fait pour exalter les serments de Strasbourg. C'est-à-dire que vous écornez aussi le monument.
Oui, un monument auquel j'ai apporté il y a 25 ans une ou deux pierres, hein, oui. C'est évident, mais il y a un aspect d'autocritique personnelle discrète dans ce livre. Mais comment y échapper? Tout de même, le français est une institution.
Alors, c'est de ça part dont on en part. Parler.
Et c'est une institution, on pourrait dire, de compensation. J'ai publié un livre aux éditions de Minuit que j'ai intitulé Une langue orpheline. Le français est de toutes les langues romanes la plus éloignée du latin à cause de la germanisation. C'est un créole, c'est du latin vulgaire mêlé de gaulois et de beaucoup de germains. C'est donc une langue qui a dû acquérir ses lettres de noblesse. Et dès le début, on voit qu'on en fait quelque chose qui est toujours en rivalité avec le latin. Le français est son propre latin. Et ce n'est pas un hasard si le français a été écrit très tôt, un texte diplomatique, si son orthographe est très latinisante par rapport aux autres langues romanes. Si le français est doté d'une institution comme l'Académie française, qui est incomparable par rapport aux autres académies espagnoles ou italiennes, ainsi de suite. Et si le purisme est si violent en français, c'est une institution. Et la France tient debout aussi, ou d'abord, par sa langue.
Oui, c'est une institution, c'est à la fois une création poétique et une institution politique, et pourtant, au IXe siècle, on ne peut pas encore tout à fait dire que le royaume est fils de sa langue.
Mais non, pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Pas du tout. C'est anachronique de l'écrire, et on l'a écrit, et je l'ai quelque peu écrit. Il n'empêche que les lectures qu'on a faites sont de cet ordre-là. Tout le 19e siècle positiviste, Gaston Paris, Bruno...
Qui est très présent aussi dans votre livre.
Oui,
Gaston Paris, qui est aussi une ombre bienveillante.
Bienveillante, oui, ce sont des gens qui avaient du talent, mais ils travaillaient dans leur époque. Ils ont vu la naissance de la France. Et quelques historiens, qui ne sont peut-être pas tout à fait des historiens avec lesquels nous travaillons, vous et moi, considèrent que Traité de Verdun, Serment Strasbourg, c'est la fondation de la France, encore actuellement. France. Le récit national passe par les Serments de Strasbourg.
Et voilà pourquoi d'ailleurs, dans un livre qui s'appelait Histoire mondiale de la France, qui a eu son petit succès, Michel Bagnard écrivait des Serments de Strasbourg, que Nithard en avait été l'ouvrier génial de la consignation. Et donc, on n'est pas très loin, au fond, de ce que vous dites. Vous êtes un gardien.
Michel Bagnard a écrit un très beau texte que je cite.
Oui.
C'est une très belle formule, et c'est exactement cela.
Vous êtes un gardien de la langue, Bernard Cerchiglini?
Vous savez, quand j'ai été élu à l'Oulipo, on m'a élu gardien de la langue et de phare.
Très bien.
Donc c'est très bien, une double fonction, le français et le breton, puisque je suis un gardien de phare. Oui, une sorte de gardien.
Mais pas farouche.
Mais pas farouche, non, pas du tout. Pas du tout, avec beaucoup d'estime, mais ce que j'aime dans la langue française, c'est qu'elle bouge. L'autre jour, mon ami Geneviève Fraisse me disait, au fond, tu es un linguiste et t'aimes bien quand la langue bouge. Nous parlions de féminisation.
Elle a bougé,
cette langue. Oui. C'est bien.
Eh ben justement, on écoute le morceau de musique que vous avez apporté. On l'écoute, on en parle après ?
Si vous voulez, oui.
France Culture, matière à penser, Patrick Boucheron.
En compagnie de Bernard Cerchiglini et de Thelonious Monk, qu'on vient d'entendre grommeler, le 5 avril 1957 à New York. Pourquoi ce choix ? Vous adorez le jazz, de toute façon.
J'aime le jazz, qui est pour moi, comme l'art médiéval, un art de la variante. Et ce jour-là, Monk a enregistré Round Midnight, et par chance, on a trouvé une bande de 22 minutes où l'on entend Monk lancer Round Midnight, s'interrompre, dialoguer avec l'ingénieur du son et repartir. Et on a une dizaine de fois d'introductions différentes de Round Midnight. C'est-à-dire qu'on a à peu près plusieurs manuscrits médiévaux qui racontent la même histoire d'une façon différente. Et raconter l'histoire de Lancelot et Guenièvre ou jouer Round Midnight, c'est la même chose, c'est le même art. C'est un art de la variante et de la reprise.
C'est le livre auquel vous faites allusion, Éloge de la variante, histoire critique de la philologie. Ça paraît tout à fait roide et sévère, paru en 1989. Eh ben, il est empli et entraîné en fait par cet art de la variation. Vous y écrivez que c'est l'appropriation joyeuse par la langue maternelle de la signifiance propre à l'écrit qui a pour effet de répandre à profusion le privilège de l'écriture médiévale. C'est comme Monk en fait.
C'est comme Monk. Et je regrettais que la philologie qu'on m'avait enseignée fût au contraire un art de la réduction. On pensait que les manuscrits étaient tous fautifs et qu'il fallait les réduire presque à feu vif pour apercevoir à travers un original unique fantasmé. Or, nous avions des objets réels qui étaient les manuscrits, ils avaient circulé, ils avaient été lus. Et une profusion de sens, c'est-à-dire que la littérature médiévale, comme le jazz, est une profusion de variations et de joie.
On parle souvent de ça en matière à penser, on en parlait lundi avec Delphine Horviller. Il y a de la joie et il y a aussi une manière de se consoler de bien des chagrins dans cette certitude, au fond, qu'au creux de la langue, il y a des ressources, au fond, pour déjouer les généalogies faciles. C'est de ça dont on parle depuis le début, Bernard Cerchiglini.
Exactement. Exactement. Il faut se déprendre de l'unicité, du culte de l'origine, qui est toujours lié à une question de pureté. Dans un autre livre, j'ai mis à mal la notion de francien, comme oui. ce dialecte de l'Île-de-France, si pur qu'il est transparent, qu'il n'a aucune marque dialectale, devenu le dialecte du roi et le français. Tout ça, c'est faux. Il faut reconnaître qu'il y a fabrication d'un créole supérieur, d'une langue littéraire, de pièces et de morceaux. Et avec ça, on écrit Chrétien de Troyes et jusqu'à Proust et Guyotard. Donc, mais c'est ça le travail de la langue.
C'est ça le travail de la langue. Oui. Et pourtant, au fond, ça fait très longtemps que vous êtes engagé dans une reconnaissance politique de sa variance, au fond, de sa vie même. Et qu'est-ce que c'est dur, quand même, vous vous heurtez sans cesse à des purismes.
Le purisme est massif en français et il est difficile de faire bouger la langue, de la faire évoluer. C'est une langue moderne qui doit dire la modernité. Je me suis occupé, quand j'étais délégué général langue française, de terminologie scientifique et technique.
Alors ça a commencé en 90, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui.
Auprès de Michel Rocard, voilà, pour oui. la réforme de l'orthographe.
Voilà, alors la réforme de l'orthographe qui a été faite avec l'Académie, avec les francophones, qui a eu de grandes difficultés. Même changer un accent grave sur le mot événement, qui est une erreur de l'imprimeur de l'Académie en 1740, est difficile. Faire adopter des mots français à la place d'anglicisme est difficile. Féminiser la langue, reconnaître que la France a un patrimoine linguistique extraordinaire. Vous voyez, toute une série de querelles auxquelles j'ai participé et qui m'ont fait penser que la langue française est une immense querelle.
Mais alors vous êtes comme Nittard, en fait, Bernard Cerchiglini.
Je ne sais pas si je mourrais comme lui.
Ben non, ça, je ne vous le souhaite pas, mais enfin, en tout cas, de ce chagrin sort de très beaux livres, et en particulier l'accent du souvenir, qui est le livre sur cet accent circonflexe que vous avez voulu réformer et vous êtes heurté à une peur irrationnelle.
Irrationnel quand même. Et j'étais tellement étonné des réactions venant en particulier des écrivains, alors que nous avions proposé simplement de ne plus compter comme faute l'absence de circonflexe sur I et U, ce n'est pas grand-chose. Et la réaction a été négative, massive, à un point tel que quand je suis retourné à l'université, je suis passé voir mon éditeur, Jérôme Lindon, qui m'a dit « Mais que voulez-vous faire maintenant ?» Et j'ai répondu « Mais moi, j'aimerais écrire une histoire de l'accent circonflexe. »
Même une autobiographie.
Une autobiographie de l'accent circonflexe.
Et
il a éclaté de rire et il m'a répondu « Je vous prends ce livre. »
C'est l'accent du souvenir qui paraît en 1995 et où vous rappelez que, d'abord, c'est une manière de typographe et de typographe hollandais pour supprimer des lettres, pour que test... devient tête avec l'accent circonflexe.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le circonflexe qui est la marque du conservatisme, on n'y touche pas. J'ai reçu à l'époque une lettre d'une dame très âgée qui me disait « Monsieur, ne touchez pas à nos chers accents circonflexes. » L'accent circonflexe à la Renaissance, c'est le drapeau des réformateurs. Le S devant T dans tête, vous le citiez, a disparu depuis plusieurs siècles.
Et c'est donc pour cela que l'Académie le refuse en 1694. Nous n'avons pas cru devoir utiliser certains signes pour retrancher des lettres.
Alors, comme c'est bien dit, hein, c'est-à-dire que, ben oui, parce que c'était les réformateurs, c'était les typographes hollandais.
Ouais. Donc qui diffusaient. Comme vous le dites plaisamment, Bernard Cerchiglini, à l'époque, l'accent circonflexe était de gauche.
Oui, en quelque sorte. Il est de gauche, il est réformateur, il est refusé par l'Académie. Il faut attendre 1740 et l'abbé d'Olivet, qui est un très bon phonéticien, académicien, qui convainc ses collègues d'adopter le circonflexe. Et alors, les choses se renversent. Il devient le circonflexe, l'icône même de l'orthographe, puisqu'il est la trace d'un son disparu. L'orthographe française, qui est une mémoire monumentale, a pour icône le signe d'une disparition.
Qui se flatte donc d'être incohérente et si difficile à expliquer aux étrangers.
Au fond, le circonflexe, c'est révolutionnaire de 1848 devenu préfet du Second Empire.
Oui, c'est ça. Et quand Claude Mauriac vous répond que supprimer le circonflexe d'île, ce serait comme rogner les ailes des oiseaux qui la survolent, ben, qu'est-ce qu'on peut répondre ?
Rien, car il s'agit d'un écrivain dont la matière est l'écrit et qui voit des oiseaux volant, d'ailleurs les ailes plutôt bas.
Oui.
Que faire ? Sinon, ce qu'on peut faire, c'est écrire une autobiographie du circonflexe pour comprendre cette passion française.
Bon, mais enfin, comme Nithard, vous êtes resté sur votre cheval de bataille, et aujourd'hui, vous publiez au Seuil le Barré, la ministre est enceinte, ou la grande querelle de la féminisation des noms. On pourrait en faire une longue histoire de cette querelle qui est un psychodrame, en fait, qui est du théâtre de boulevard, quand on lit même des grands noms.
Pantalonnade,
des pantalonnades.
Oui.
Mais commençons par exemple en 1984. C'est à ce moment-là que, sur le plan politique, il y a une première tentative de féminiser les noms des ministres, des directeurs de cabinet, etc. Et là, il y a une levée de boucliers terrible.
Si le Nithard est dû à une compassion, le livre que vous citez est dû à une stupéfaction. Car en 84, tout aurait pu se faire très aisément.
Facilement.
Puisque les Québécois avaient déjà féminisé toutes les professions, les Belges l'avaient fait, les Suisses, et en 84, la gauche au pouvoir décide d'ouvrir toutes les emplois de la fonction publique aux femmes comme aux hommes. Il faut donc, et Anicet Leport et Yvette Roudy publient une circulaire rappelant que tous les concours sont ouverts aux hommes et aux femmes, et les offres d'emploi doivent être ouverte aux femmes. Mais on manque de mots puisque jusqu'ici, le masculin avait été privilégié. Et donc, on crée une commission de terminologie, comme quand on a besoin de mots en ingénierie nucléaire ou autre. On crée une commission de terminologie que l'on confie à Benoît de Groux.
Qui a été très vaillante.
Qui a été admirable. Admirable. Qui s'entoure des meilleurs linguistes. Enfin, André Martinet était à la commission, Anne-Marie Houdebine, Jeannette Redebove qui faisait le Robert. Et cette commission travaille très bien. D'ailleurs, elle ne publie pas de liste, elle redonne les règles toutes simples de féminisation. Et alors, l'Académie française tient un discours d'une violence et d'une arrogance terrible.
Alors, j'avais prévu de citer Georges Dumézil et Claude Lévi-Strauss, oui. Mais je crois que je ne vais même pas le faire, tellement c'est grossier.
Patrick Boucheron, je crois que la misogynie est une sottise, bien sûr, et elle rend sot. Comment Georges Dumézil et Claude Lévi-Strauss ont pu écrire cela?
Et des Québécois, Maurice Druon écrit, ça je vais quand même le citer, « Nous n'allons tout de même pas imiter ces gens-là ».
Non. C'est une affaire de Huron, dit-il. Et ces gens-là ne parlent pas la bonne langue. Et donc, la gauche, qui avait été capable d'abolir la peine de mort contre l'opinion, recule, puisque les travaux de cette commission aboutissent à une petite circulaire publiée le 16 mars 1986, jour des élections, perdue par la gauche. Et donc, il a fallu attendre plusieurs années, un échec complet.
D'où le communiqué officiel de 1988 que vous citez, qui est formidable, le capitaine Prieur est enceinte.
Oui, bien sûr. On reste sur le masculin, c'est-à-dire que l'Académie fait valoir une primauté du masculin, qu'elle appelle le cadeau marqué ou générique, et on continue, puisque quand le capitaine Dominique Prieur, condamné par les Néo-Zélandais, mais qui avait accepté que ce capitaine résidât dans un atoll, par un avion de nuit rentre en France, et que le Premier ministre néo-zélandais proteste, le Premier ministre Jacques Chirac répond « Non, nous l'avons rapatrié car le capitaine Prieur est enceinte ». Voilà. C'est-à-dire qu'il faut utiliser un masculin, mais le purisme n'a pas compris qu'avec les mots, on fait des phrases, et que dans les phrases, il y a des accords, des reprises, des anaphores.
Et donc, il préfère encore l'impropriété syntaxique.
Oui. C'est ce qui me stupéfait encore.
C'est-à-dire que là, ce sont des phrases agrammaticales.
Mais naturellement.
Le mais purisme... on préfère encore ça oui. à la féminisation.
Eh ben oui. On préfère des phrases boiteuses, des asyndètes, des complications au féminin, à la parité dans la langue. Il faut dire que tout de même, il y a là quelque chose de profondément idéologique.
Et ce, d'autant plus, Bernard Cerchiglini, que vous montrez bien, on le sait, mais il est utile de le rappeler, que ce qu'on appelle une féminisation n'est rien d'autre qu'une démasculinisation. Parce que jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'en 1694, je crois, une ambassadrice, ce n'est pas la femme de l'ambassadeur, c'est une femme qui a une ambassade.
Vous citez la première édition du dictionnaire de l'Académie française, ambassadrice, femme chargée d'une ambassade. Louis XIV a donné des ambassades au sens de mission à l'étranger à des femmes. Saint-Simon, qui le rappelle, parle d'ambassadrice. Au Moyen-Âge, à la Renaissance jusqu'au XVIIe siècle, toutes les professions occupées par des femmes sont désignées par des mots féminins, notamment dans l'Église catholique. L'Église catholique au Moyen-Âge, à la Renaissance, a toujours utilisé des termes, prieur, supérieur, jusqu'à papesse. Donc, j'ai montré dans l'histoire de la langue le recul du statut de la femme. Et dès la troisième édition du dictionnaire de l'Académie française, une ambassadrice n'est que l'épouse d'un ambassadeur. Ce qui est toujours le cas pour le dictionnaire de l'Académie française.
Et pour quelqu'un de tout à fait raisonnable, comme Ferdinand Bruno, même s'il était lui aussi un ardent défenseur de la langue française contre les parlers régionaux, bah, il pouvait assez aisément, au début du XXe siècle, écrire « quelques formes se féminiseraient aisément, ingénieureux, professeureux s'écrirait comme supérieureux ».
C'est extraordinaire. Bruno écrit cela. Or, les puristes, actuellement, partent en guerre contre ce « e » final que les Québécois se sont permis d'ajouter, légitimement à mon avis, au moins « e », qui sont les seuls à poser un problème, ingénieur, professeur, procureur. J'ai l'autre jour dans les mains une lettre officielle d'une femme qui est procureur, avec un « e », c'est un « e » qui s'entend pas. Mais il a fallu combattre pour un « e » final, pour que la féminité soit évidente dans la langue,
et audible.
À l'écrit, et audible.
Et audible.
C'est quand même stupéfiant. Et on me dit que dans quelques jours, l'Académie française va publier une déclaration solennelle par laquelle elle reconnaît que l'usage est de la féminisation. D'ailleurs, récemment, Madame Carin-Anclos, dans le Figaro, a dit, après tout, Madame la ministre, ce n'est pas gênant. Quand on voit ce que l'Académie a publié depuis 1984, c'est un sacré... aggiornamento.
Oui, donc vous arrivez avec des bonnes nouvelles.
Très bonnes nouvelles.
Mais de toute façon, elles ne peuvent être que bonnes, parce que est-ce que on peut avoir raison longtemps contre l'usage en matière de langue?
C'est tout le problème de l'Académie. Est-elle gardienne ou greffière de l'usage? C'est l'usage qui prime, et on l'a dit pourtant depuis Vaugelas. Or, nous sommes dans la situation stupéfiante où l'usage féminin et général, pas seulement dans l'administration, dans l'État, mais dans la presse, même dans un quotidien comme le Figaro, qui s'est fait pourtant le messager zélé du purisme, et l'organisme de normalisation s'oppose. Ce n'est pas tenable, et ça ne sera pas tenu. Mais tout de même, j'ai consacré ce livre à 30 ans de blocage en France.
L'épilogue de ce livre, Bernard Cerchiglini, s'intitule « Féminiser une langue monde ». Il y a aussi dans votre combat, on en a parlé, justement dans cet effort d'englober, d'embrasser dans langue française les langues de France et aussi la francophonie, cette volonté d'ouverture au monde. Où en sommes-nous? Comment vous lisez, comment vous analysez justement les débats actuels sur la francophonie?
Nous sommes à une époque de tournant. Et ce tournant a été bien vu et dit par le président de la République qui, le 20 mars dernier, dans un beau discours sur la francophonie, a dit « Le français s'est au fond émancipé de la France. Il est devenu cette langue monde, cette langue archipel », citant Édouard Glissant.
Édouard Glissant, oui.
Et qu'un président de la République, intervenant à l'Académie française, dit cela, prouve qu'un tournant a été pris. Nous, Français, avons enfin compris que le français est mondial, qu'il a pris racine partout et que l'arbre a porté de beaux fruits, et que nous sommes simplement, nous avons une mission importante, le berceau de la langue, mais que le français appartient à tous ceux qui le parlent de façon native et que la variété et la richesse du français est importante. Il faut en rendre compte. Et je crois que dans le blocage académique, on a eu aussi, l'académique, on a eu cette difficulté qu'a eu cette institution à comprendre que le français maintenant est mondial et qu'elle ne peut plus donner des ordres à des Québécois, à des Sénégalais, à des Belges. Il faut maintenant un dictionnaire du français mondial, oui. Et un dictionnaire numérique, bien sûr, et nous sommes en train de le faire.
L'article que nous citions de Maurice Druon s'appelait « Le français défiguré », donc on part quand même de très très loin.
On part de très très loin, et reprenant tous ces articles de Maurice Druon, de Jean Dutour, j'ai été stupéfait de voir qu'ils ont été écrits parfois il y a 15 ans.
Et là, on dirait vraiment l'époque carolingienne. Oh. C'est-à-dire que, en fait, oui, il y a une sorte
de
violence.
Plutôt les carolingiens.
Ah, oui, vous défendez les carolingiens. Oui.
Oui, vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, on a quelque chose qui est totalement hors du temps. C'est très étrange.
Mais puisque nous parlons du nous, de la consistance du nous, oui. Puisque nous savons bien qu'il s'éprouve aussi linguistiquement, qu'est-ce que vous pensez, Bernard Cerchiglini, des critiques aussi qui sont adressées à l'ambition même de la francophonie, d'Achille Bembe, par exemple, qui dit qu'au fond, c'est une des manières pour les élites françaises de s'assurer ou de se réassurer quant à la puissance de rayonnement très affaiblie ou très amortie de la France dans le monde.
Cela a pu être ça au départ, hein, car tout de même, on se plaît à dire que les Français n'ont pas créé la francophonie, qu'elle vient de Senghor, etc. Moi, je sais que tout de même, quelqu'un comme Focard était à la manœuvre. Donc, c'est vrai qu'au départ, il y a une volonté de la France de maintenir une sorte de puissance, de pouvoir souple via la francophonie. Mais sa créature lui a échappé. Ah. Et pour avoir été recteur de l'Agence universitaire de la francophonie pendant 8 ans, je peux vous dire que on se sent bien dans sa langue française à Dakar, à Vientiane, à Bruxelles, et que la francophonie, elle s'est, pour citer le président, la République, elle s'est émancipée. Et qu'il y a là un nous. Moi, je sens ce nous. Il y a un nous collectif, à condition de ne pas penser que ma parlure française est à la primauté. Il y a un nous si nous acceptons, une fois de plus, la variante. Ce qui est beau dans la langue française, c'est qu'on la prononce différemment. C'est à peu près la même syntaxe. Mais Dieu que c'est beau, cette façon de la prononcer, de l'exprimer par des expressions, par un vocabulaire, un petit peu partout dans le monde. Voilà un nous. Mais un nous qui s'ouvre à l'autre. C'est le même et c'est l'autre. Je n'ai fait dans ma carrière que travailler sur le même et l'autre. Diachroniquement, l'ancien français et le français d'aujourd'hui, et puis en synchronie à travers le monde, je me sens une familiarité avec un Québécois et un Sénégalais, c'est la même langue, à condition d'accepter qu'elle bouge.
Merci professeur, comme on dit sur TV5.
Merci Patrick Boucheron.
Matière à penser, Bernard Cerchiglini, Joséphine Lampreya, Cédric Chatelus, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascal Desvignes, Patrick Boucheron. Et demain, oui, nous poursuivrons sur cette lancée de la langue monde et de la question de la francophonie, puisque j'aurai le plaisir d'accueillir Christiane Taubira. Bonne soirée.
Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cet air. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi. J'inscrirai moi-même.